Deutsche Welle, Carrefour Europe.
Bonjour à tous. La semaine dernière, Carrefour Europe vous emmenait au Portugal. Souvenez-vous, il y a 3 ans, ce pays du sud de l'Europe était au bord de la faillite. Pour assurer la survie économique du pays, Bruxelles avait alors sorti son carnet de chèques, comme pour l'Irlande, la Grèce ou Chypre. Mais en échange, ces pays fragiles ont été priés de se serrer la ceinture. Austérité et rigueur sont les mots d'ordre du plan de sauvetage. Mais les politiques d'austérité ont-elles réellement permis aux économies malades de surmonter la crise? C'est le thème de cette émission Carrefour Europe. Nous irons également en Grèce, où l'austérité constitue un terreau favorable à la montée des extrêmes et du parti néo-nazi Obdoré. Un dommage collatéral de la crise ou une conséquence des choix politiques? Merci de nous être fidèles. Au micro, Katia Beach.
Un jour, la croissance viendra. Un jour, mon patron me dira allez, je vous augmente aussi. Mais aujourd'hui, je vous licencie.
Baisse des salaires et des retraites, réduction des dépenses publiques. Depuis 3 ans, le Portugal observe une discipline budgétaire très stricte en échange d'un plan d'aide de 78 milliards d'euros. Lisbonne s'apprête à s'affranchir de la tutelle de Bruxelles et du Fonds monétaire international. Et pour la première fois, la croissance reprend. Alors si certains signes sont positifs, il serait trop simpliste de boire le verre à moitié plein. Le taux de chômage dépasse toujours les 15% et il est même de 36% pour les jeunes. Le Portugal est loin de connaître des heures glorieuses. C'est en tout cas l'avis de l'eurodéputé du groupe socialiste Liam Jan Nock, membre de la commission des affaires économiques et monétaires.
Les plans d'assistance ont certainement aidé le Portugal et l'Irlande à éviter une crise plus importante. Le plan d'aide à l'Irlande a sauvé le secteur bancaire, mais à un prix extrêmement fort pour le contribuable qui le paye tous les jours à travers des plans d'austérité pour rembourser la dette. Quant au Portugal, l'austérité budgétaire et la déflation salariale pèsent considérablement sur sa croissance, si bien que dans les deux pays, vous avez des taux d'endettement aujourd'hui qui dépassent 120% du PIB. Et donc tout dépendra à l'avenir pour ces deux pays-là, mais aussi pour la Grèce et Chypre, de la capacité des politiques économiques proposées au niveau européen et entérinées par chacun des États de relancer la croissance.
Est-ce qu'il faut aujourd'hui revoir cette politique d'austérité ?
Les politiques d'austérité budgétaire et salariale étaient censées représenter des facteurs structurels nécessaires pour baisser les impôts et flexibiliser le marché du travail afin de permettre aux entreprises d'investir et d'améliorer leur compétitivité. Dans les faits, on se rend compte que quand tout le monde baisse ses salaires et ses dépenses en même temps, il n'y a plus de demande intérieure européenne. Aujourd'hui, je crois que le gros problème, c'est de relancer un petit peu la demande aujourd'hui alors que les carnets de commandes sont vraiment bas, et c'est ça qui explique qu'aujourd'hui la demande de crédit soit aussi faible.
C'est ce qui se passe pour la Grèce. Est-ce qu'il faut restructurer la dette grecque ?
Si l'on veut que la Grèce fasse moins d'austérité pour pouvoir soutenir sa croissance, le niveau de sa dette ne le lui permet pas. Et la dette grecque est, selon le FMI, aujourd'hui insoutenable. Elle est de 175% du PIB. Et pour la faire baisser en dessous de 120, il faudrait commencer par restructurer une partie de la dette grecque.
Alors que se profilent les élections européennes, la Grèce reste engluée dans la récession, minée par le chômage. 27% des Grecs n'ont pas d'emploi déclaré et ceux qui en ont un sont parfois payés avec plusieurs mois de retard. Et le revenu des ménages a diminué de plus de 40%. Les retraites se sont effondrées, une entreprise sur 4 a fermé ses portes. Le peuple grec est à bout et les créanciers, l'UE et le FMI, la banque centrale, lui demandent encore plus de sacrifices. C'est dans ce contexte que les Grecs sont appelés à élire 21 eurodéputés. Le scrutin devrait confirmer le changement radical du paysage politique observé depuis le début de la crise, à savoir une montée inquiétante des extrêmes et en particulier du parti néo-nazi Obdoré. Obdoré est devenue la troisième force politique du pays, malgré les manœuvres politiques pour tenter de faire interdire le parti. Dernier scandale en date, dans une vidéo tournée en caméra cachée, un proche du Premier ministre grec s'entretient avec l'un des responsables d'Obdoré. Notre correspondant Thomas Jacobi revient sur cette affaire.
Il a pensé, en grand bourgeois qu'il est, qu'après tout ça, vous alliez tomber à 2%. Or, je lui ai dit, ils auront 20%. Il m'a dit « t'es con ». C'est qu'il a peur que vous lui preniez des voix.
Il, c'est le premier ministre grec, le conservateur Andonis Samaras. Celui qui parle, c'est le secrétaire général du gouvernement, son conseiller de 30 ans, Takis Baltakos. Celui qui l'interroge et le piège à la caméra cachée, c'est le porte-parole du parti néo-nazi grec, Obdoré, Ilias Kassidiaris. Dans cette vidéo, on voit les deux hommes très proches, en grande discussion. On y apprend que les poursuites engagées contre le parti néo-nazi l'ont été sur ordre direct du Premier ministre, car Obdoré devenait trop forte et que les dossiers d'instruction sont vides. Du pain béni pour le parti néo-nazi qui, depuis des mois, malgré toutes les révélations de la presse sur ses activités criminelles, reste troisième parti du pays. Pour Odysseas Voudouris, candidat du parti des radicaux de gauche, ce scandale a plusieurs lectures. Nous l'avons joint par téléphone en pleine campagne électorale dans le Péloponnèse.
Ce qui est assez impressionnant, ce n'est pas tellement le ton amical du représentant du gouvernement, c'est plutôt le ton conciliant du dirigeant d'Obdoré qui est censé être un mouvement contre le gouvernement. Je crois que les problèmes qui ont donné naissance à des mouvements comme Obdoré, ces problèmes sont toujours présents et les différents candidats sont obligés de les prendre en compte d'une manière ou d'une autre.
De fait, le candidat conservateur pour la mairie d'Athènes a demandé désormais un référendum pour la construction de la mosquée d'Athènes, alors même que la décision pour sa construction a été prise. Un candidat indépendant lui fait campagne pour la sécurité de la capitale, d'autres sur l'immigration qui envahit le pays, autant de sujets chers à Obdoré, comme nous l'explique le député d'Obdoré, Ilias Panayotaros.
En ce moment, l'Europe tout entière, pas seulement la Grèce, est en train d'être islamisée. La population musulmane approche désormais les 25% de la population européenne et augmente de manière exponentielle. Si l'Europe entière ne réagit pas à ce immense danger, les conséquences seront énormes. Vous comprenez qu'il faut contrôler de près qui rentre dans nos pays et pourquoi. L'écrasante majorité des musulmans ici sont des immigrés clandestins. Ce sont des islamistes fanatiques. On a vu des exemples de ce que ça donne dans d'autres pays européens. Et pour nous, toute construction de mosquée est totalement inconcevable.
Les électeurs obdoréens se retrouvent dans ce discours haineux même s'ils se défendent d'être racistes comme ce vieux monsieur rencontré lors d'une distribution de nourriture réservée aux seuls Grecs.
Pour moi, c'est le seul candidat digne d'être maire d'Athènes, car la ville s'est tellement dégradée, c'est devenu une ville étrangère. Je suis grec, je ne hais pas les étrangers, mais je tiens à vivre tranquillement sans risquer de me faire insulter, voler ou assassiner. Par conséquent, le seul qui peut nettoyer tout ça, c'est Ilias Kassidiaris.
Le porte-parole du parti Ilias Kassidiaris, adulé par les électeurs d'Obdoré, était aussi présent à cette béquille alimentaire. Il nous présente son programme pour les européennes.
Il faut mettre fin à l'Europe des banquiers usuriers pour améliorer le niveau de vie des peuples européens. Notre vision, c'est une Europe des nations. Lorsque nous nous serons concertés avec les représentants des partis nationalistes au Parlement européen, nous aurons sans doute des discussions. Ces négociations auront comme but de créer un groupe de partis nationalistes puissants au sein du Parlement européen.
Le gouvernement essaye désespérément d'interdire Obdoré sans succès. Une erreur selon le politologue Athanasios Dokos.
Admettons qu'on déclare Obdoré hors la loi. Il nous faudrait pour ce faire des bases légales. Une décision qui, même si elle va dans le bon sens, est considérée par une partie de l'électorat comme illégale, pourrait avoir comme conséquence l'augmentation de l'électorat des partis radicaux. Si on déclare hors la loi Obdoré, il se peut qu'apparaisse un nouveau parti avec des idées similaires, peut-être un peu plus prudent, afin de ne pas connaître le même sort, mais qui serait tout aussi dangereux, sinon plus.
De fait, Ilias Kassidiaris est si sûr de lui qu'il a mis pour photo sur son tract électoral celle où il sort du bureau de juge d'instruction, les menottes au poing. Il a été avec d'autres députés entendu dans le cadre de l'enquête sur le rappeur assassiné par un membre d'Obdoré qui a avoué. Relâché faute de preuves, il est en liberté conditionnelle. Obdoré risque donc de créer la surprise à ses élections à tous les niveaux. Thomas Jacobi d'Athènes pour la Deutsche Welle.
Les socialistes font campagne pour les européennes contre l'austérité, une politique prônée par l'Allemagne. Pour l'eurodéputé Liem Angnok, la chancelière doit renoncer à sa politique de rigueur et les intérêts européens doivent prévaloir.
Les choix politiques de la Commission sont clairement des choix néolibéraux. Ils sont largement influencés par la philosophie Bordeaux libéral de la chancelière allemande. Et la seule façon de les mettre en cause est de faire prévaloir la démocratie. Et la seule institution démocratique aujourd'hui, c'est le Parlement européen. Il faut lui donner plus de pouvoir et il faut qu'en son sein, une majorité progressiste se dégage pour contester les choix libéraux et conservateurs.
La chancelière Angela Merkel est loin de renoncer à cette politique.
La chancelière Merkel est aujourd'hui en grande coalition et le SPD est allé dans la coalition pour augmenter le salaire minimum et mener des politiques plus favorables au pouvoir d'achat et à la demande. Et c'est une bonne chose que le SPD puisse contrebalancer les choix conservateurs de la chancelière qui, jusqu'alors, au cours de la dernière mandature, était énormément sous influence des ultra-libéraux du FDP allemand. Maintenant, est-ce que ça va suffire ? Non, parce que on s'est rendu compte qu'à l'Eurogroupe, beaucoup de choses étaient prises dans le sens des intérêts nationaux, soit allemands, soit français, soit britanniques, soit d'autres intérêts. Et si on veut faire prévaloir l'intérêt européen qui aujourd'hui, une relance de la croissance et la mise en œuvre d'instruments communautaires appropriés, c'est-à-dire un budget communautaire plus important, une fiscalité européenne, une harmonisation sociale, etc. Il faut faire un pas en avant vers l'union politique, un pas en avant que les États ne sont pas prêts à faire et il faut que le Parlement arrive à donner plus de voix.
Bon Dieu, dans quel monde on vit ?
Du FMI au RMI,
de l'ISF à SDF,
des ministères à la misère,
de la CGT au MEDEF,
du caniveau à la tête de l'État,
des retraites chapeaux au RSA,
de la France d'en haut à celle d'en bas,
il n'y a qu'un pas.
Voilà, on danse sur le monde en morceaux, et la valse commence.
Pour ou contre les politiques d'austérité, le débat reste ouvert. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.de, rubrique Europe. Vous y retrouverez également un dossier spécial consacré aux élections européennes qui auront lieu, je vous le rappelle, entre le 22 et le 25 mai. La semaine prochaine, à ce micro, ce sera Elisabeth Cadeau. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Moi, dans la vie, je m'en fais pas. Je bouffe des pâtes à tous les repas. Embrasser pour moi la famille pendant que mes frères crient à la famine. Merci, Monsanto.